soir, certains députés provinciaux du Bas-Congo et de l'Équateur réclament leur réintégration au sein de leurs assemblées provinciales respectives. Ceci après avoir assumé des fonctions incompatibles avec leur mandat. La semaine dernière, à Mbandaka, une vive tension consécutive à cette situation a même été observée à l'Assemblée provinciale. Comment analyser cette situation? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois Jean-Faustin Mokoma, député provincial élu de Kourou dans le sud d'Ubangi. Il fait partie du collectif des députés provinciaux de l'Équateur qui veulent réintégrer l'Assemblée provinciale. Honorable Mokoma, bonsoir.
Bonsoir.
Ils vont nous rejoindre dans un tout petit moment. Eux, c'est Maître Gilbert Kiatsingé, avocat expert en décentralisation, et également Jean-Pierre Mbouébois, professeur à l'Université catholique du Kourou. Entre-temps, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La réintégration au sein des assemblées provinciales de certains députés provinciaux ayant exercé des fonctions incompatibles avec leur mandat pose problème. C'est le cas au Bas-Congo et à l'Équateur. Berry Franklin Luchaka pour les détails.
Au Bas-Congo, ils sont 5, ces députés qui réclament leur retour à l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, dont l'ancien gouverneur intérimaire Deon Koussou. À l'Équateur, ils sont au nombre de 14, parmi lesquels on peut citer l'ancien ministre provincial de la Justice, Guy Inengue, ou encore l'ancien gouverneur de province, Jean-Claude Bayindi. Tous les députés concernés ont occupé des postes incompatibles avec leur mandat des députés. À ce sujet, l'article 110 de la Constitution stipule, je cite, « Un mandat parlementaire est récupéré lorsqu'une fonction politique incompatible arrive à son terme. » Fin de citation. À cette disposition s'ajoute un arrêt de la Cour suprême de justice qui stipule, je cite, « Aussi longtemps qu'une nouvelle assemblée n'aura pas été installée, c'est-à-dire même durant la période de prorogation de fait de la législature lorsqu'un député provincial dont le mandat parlementaire était suspendu du fait de la nomination à toute autre fonction incompatible et lorsqu'il cesse d'exercer celle-ci, il reprend automatiquement son siège à l'Assemblée provinciale au dépend de son suppléant qui l'avait remplacé. » Fin de citation. C'est sur ces deux aspects que les députés réclament leur réintégration au sein de leurs assemblées provinciales respectives. À l'Équateur, certains députés ont même subi un passage à tabac lorsqu'ils ont voulu regagner de force leur poste. Les députés du Bas-Congo se demandent s'il n'y a pas la politique de deux poids deux mesures lorsque leurs collègues de la province orientale, du Maniema et du Kasaï sont rentrés siéger au Parlement provincial à la faveur de l'arrêt de la Cour suprême de justice rendu le 18 novembre 2013. Dans certains milieux politiques, on parle même des pesanteurs politiques afin d'empêcher ces députés provinciaux de siéger.
Merci Berry Franklin Luchaka. Jean-Faustin Mokoma, vous êtes député provincial élu de Kourou dans le sud d'Ubangi. Vous faites partie du collectif des députés provinciaux de l'Équateur qui veulent réintégrer l'Assemblée provinciale. Pour commencer, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière à Mbandaka?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis très heureux de me retrouver ici sur ce plateau, puisque aujourd'hui c'est le 18 novembre 2014. Jour pour jour, il y a une année que l'arrêt de la Cour suprême a été rendu. Et voilà que malgré que cet arrêt a été rendu par la Cour suprême faisant office de Cour constitutionnelle, jusqu'aujourd'hui, après une année, il souffre de l'exécution. Ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur le lundi 10 n'est que preuve ou une démonstration de barbarie et de sauvagerie que nous condamnons tous, puisque nous sommes rendus à Mbandaka et cette fois-ci c'était la quatrième fois que nous descendions, nous, le collectif des députés qui doivent atterrir l'Assemblée provinciale pour rencontrer le président. Le lundi, l'objectif était de rencontrer le président, solliciter une audience, de manière à parler avec lui, puisque pendant les trois fois que nous nous rendions à Mbandaka, nous nous sommes toujours heurtés à un avis de non-recevoir de par le président. Et voilà que j'ai été désigné par mes pairs pour remplir la fiche des demandes d'audience, et je me retrouve nez à nez avec un colonel Mandé qui a été été rappelé d'urgence par le président de l'Assemblée, et ce dernier vient me demander de vider la salle après m'avoir interdit de pouvoir bénéficier de la fiche de demande d'audience en me collant d'ailleurs une gifle, et puis par après il a appelé des agents de l'ordre pour me vider de la salle. Mes collègues, mes pères, ont intervenu pour éviter que je puisse ramasser beaucoup plus de coups, puisqu'ils étaient en train de me dérouler des coups, ils étaient à plusieurs. Les images qui ont circulé à travers le monde ont parlé d'elles-mêmes, et ces policiers se sont pratiquement mis à nous rosser, moi et mes collègues, et voilà ce qui s'est passé en bref à l'Équateur, jusqu'à nous jeter en prison, à nous arrêter arbitrairement. Heureusement pour nous, nous avons un témoin qui était présent, c'est le colonel Moussendé. Ce dernier, c'est celui qui nous avait facilité pour pouvoir accéder à la salle d'attente du président de l'Assemblée afin de pouvoir remplir la fiche de demande d'audience. Ça, je l'ai dit un peu en bref, mais je crois que les images ont parlé d'elles-mêmes, malgré qu'elles ont circulé dans tous les mondes.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'arrêt de la Cour suprême de justice qui a totalisé une année, jour pour jour, selon vos dires. Que stipule cet arrêt ?
Mais l'arrêt est clair, puisque l'arrêt de la Cour suprême de justice, pour ne pas prendre beaucoup plus de temps, c'est un arrêt qui a été rendu de suite à la requête qui a été introduite par le président de l'Assemblée provinciale, de l'Assemblée de la province orientale. Ce dernier, il avait fait son recours pour demander à la Cour suprême de justice, qui faisait office de la Cour constitutionnelle, de pouvoir se prononcer par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui, puisque, il faut le dire, nous, députés provinciaux et ainsi que les sénateurs, pratiquement, nous sommes dans une situation de prorogation des mandats, puisqu'il faut savoir que le mandat constitutionnel étant de 5 années, il était question que les élections soient organisées en 2011, mais celles-ci sont limitées juste au niveau de la législature nationale. Mais l'arrêt stipule, il a dit, je crois que le premier intervenant ou votre collègue en introduisant l'émission l'a très bien dit, l'arrêt stipule que lorsque un député accepte de exercer une fonction qui est incompatible à son mandat est suspendu. Et c'est l'article 110 de la Constitution, puisqu'il faut dire que c'est la même Constitution que nous avons adopté par référendum en 2005 et puis promulgué par le président en 2006, qui l'a dit, malgré que cette constitution a connu une certaine révisitation dans son article 110. Donc nous, nos mandats étaient suspendus. Maintenant que nous avions mis fin, c'est-à-dire que nous avons mis fin à l'exercice de la fonction que nous avions dit accepter, et c'est pour ce qui était compatible à notre mandat de député, donc nous sommes censés revenir maintenant comme députés provincial et siéger au sein de l'Assemblée.
Alors, vous dites que c'est la quatrième fois que vous posiez ce problème. Pourquoi on vous refuse la réintégration ?
Ben, je crois que le refus, c'est un acte d'abord inconstitutionnel, puisqu'il faut savoir que l'article 151, je vous épargne de faire toutes les lectures, et même l'article 168 les dit, stipule que les arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours et en principe doivent être exécutoires. En principe, de par la publication déjà de l'arrêt, peut-être qu'il était prononcé, le président était censé, puisque le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyez, l'a écrit d'abord, il a envoyé une première correspondance à la date du 24, mais le 27, il faut le dire aussi, un message officiel a été adressé à tous les présidents des assemblées provinciales de toute la République démocratique du Congo, en réservant copie au président de la République, au Premier ministre, ainsi qu'à tous les gouverneurs des provinces. Donc, notre président, le président de l'Assemblée provinciale, M. Ibambe, il est censé détenir cet arrêt-là, mais il ne pouvait qu'exécuter, puisqu'il n'y a pas d'autre procédure. La seule procédure à faire était une procédure administrative, annoncer notre arrivée et puis demander à nos suppléants de pouvoir quitter la salle afin que nous puissions siéger.
Et selon vous, pourquoi il ne le fait pas?
Mais il le fait pas, je crois que c'est pas, on peut le dire que c'est par ignorance, mais si on le dit par ignorance, on est suite de la loi, mais c'est beaucoup plus par mauvaise foi, parce que c'est un entêtement inutile, parce qu'il est en train de fouler au pied la Constitution de la République en faisant cette obstruction, alors que toutes les dispositions de la Constitution disent qu'il doit exécuter cet arrêt, et le ministre est revenu plusieurs fois dans ses différentes correspondances en insistant qu'il puisse exécuter l'arrêt.
Merci, Maître Gilbert Kietzinger, vous êtes avocat expert en décentralisation. Bonsoir et merci d'être venu.
Merci beaucoup et je salue également à tous les auditeurs.
Alors, maître, vous venez de suivre l'honorable Jean-Faustin Mokoma. Il a avancé un certain nombre d'arguments pour vous. Comment vous analysez cette question de la réintégration des députés provinciaux qui ont occupé d'autres fonctions incompatibles avec leur mandat?
Oui, j'aurais été heureux d'avoir sur ce plateau le président des assemblées provinciales qui refuse de réintégrer les députés bénéficiaires des effets de l'arrêt de la Cour suprême de justice vanté. Mais je me dois tout de suite, en tant qu'expert en décentralisation, de préciser qu'en fait, selon les usages parlementaires, que ce soit au niveau national comme au niveau provincial, eh bien, lorsqu'il y a une décision de justice qui a été prononcée en faveur de tel ou tel député, la réintégration n'est pas automatique. Il y a toujours le président avec le président des groupes parlementaires qui se réunissent pour fixer, inscrire la question de la réintégration, qui en fait est apparentée à la question de validation des mandats de député. Eh bien, cette question est toujours inscrite à l'ordre du jour d'une plénière. Et encore faut-il qu'il y ait plénière, parce que je me souviens que dans le cas, par exemple, de la province de l'Équateur, nous avons été ici plusieurs fois, eh bien, l'Assemblée provinciale a été fermée. Je sais que pendant plus de 6 mois, eh bien, les travaux de l'Assemblée provinciale à l'Équateur ne se sont pas tenus. Il n'y a pas eu de plénière. C'est tout récemment que, à la suite d'un certain nombre de tractations, de négociations avec le gouvernement central, avec le ministre de l'Intérieur, la question a été d'ailleurs discutée au Conseil des ministres, que l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux de la province de l'Équateur ont été autorisés à reprendre le chemin de leur bureau. Et donc, peut-être que pendant ce temps-là, c'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait que le président concerné ait aussi un mot à dire, il ne faut pas le condamner par défaut. Peut-être que pendant ce temps-là, on n'a pas eu l'occasion de constituer une commission, parce que souvent c'est une commission PAJ ou une sous-commission dans la commission PAJ qui examine le dossier après avoir reçu les instructions de la plénière. Est-ce qu'ils ont siégé? Ils ont déjà aligné cette question à l'ordre du jour? Parce que la procédure n'est pas qu'administrative, c'est une procédure parlementaire qui se rapporte à la validation des mandats de députés. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées provinciales, il y a des députés provinciaux qui ont quitté délibérément leur parti, qui étaient candidats députés nationaux dans d'autres partis, dans les partis autres que les partis dans lesquels ils ont été élus, et mais qui ne sont pas encore invalidés. Parce que ce n'est pas une question automatique, ce n'est pas une question simplement administrative, c'est une question politique, c'est une question liée au fonctionnement même de l'Assemblée provinciale.
Mais Maître Kietzinger, vous avez suivi Honorable Fossé Mokoma affirmer que c'est la 4e fois qu'il pose ce problème. Et donc, si solution il devrait y avoir, ça devrait quand même se faire depuis longtemps.
Bien, c'est ce que je dis. Je dis que c'est les problèmes, on les pose toujours. Je ne sais pas ce qui se passe à l'Équateur, mais je me souviens que pendant une période suffisamment longue, en tout cas plus de 6 mois, l'Assemblée provinciale était fermée. Je ne sais pas, on peut écrire au président, mais il faut que la plénière puisse siéger et que, à l'ordre du jour de cette plénière, on puisse aligner la question relative à la validation du mandat. C'est la même procédure même pour les suppléants. Il ne suffit pas qu'un député décède ou qu'il soit empêché d'exercer pour que le suppléant, le lendemain, après avoir écrit, qu'il prenne ses fonctions. Il y a toute une procédure qui est souvent prévue dans le règlement intérieur de chaque assemblée.
Et donc, légalement, ça ne devrait pas poser problème.
Légalement, ça ne devrait pas poser problème parce que l'article 110 de la Constitution a déjà vidé la question, même s'il y a encore un petit débat par rapport au débat des juristes sur la question de savoir si cette disposition constitutionnelle rétroagit ou si elle agit pour l'avenir. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui exerçaient déjà des mandats incompatibles, des fonctions incompatibles avec leur qualité de député avant la promulgation de cette loi qui révise la Constitution, est-ce qu'ils sont éligibles également au bénéfice de cette disposition? Voilà, il y a ce débat. Ou bien alors,
Je n'ai pas eu le temps de lire l'arrêt. Est-ce que l'arrêt a fait rétroagir cette disposition constitutionnelle? Voilà tout le débat. Mais s'il y a un arrêt qui décide que ces gens-là puissent réintégrer l'Assemblée, je crois que c'est une question de procédure.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces observateurs qui pensent que la question est purement devenue politique?
Bien sûr, l'Assemblée provinciale, c'est une institution politique.
Par essence.
Par essence. Parce que même la Constitution parle des institutions provinciales. Ce sont des institutions politiques. Et donc, le jeu qui se passe au sein de l'Assemblée, c'est un jeu politique. Par rapport à tout ce que nous connaissons comme tendance, par rapport à certaines susceptibilités, mais il faut craindre la politisation à outrance des institutions. Il faut donc que, lorsqu'une question est purement administrative, qu'elle soit gérée sans aucune passion politique. Si la question est hautement politique, eh bien, il faut qu'elle soit gérée par des méthodes politiques. Et dans le cas d'espèce, je crois que c'est d'abord une question administrative, parce qu'il y a un arrêt de la Cour suprême de justice qui l'a déjà vidé, qui l'a déjà réglé. Et il faut maintenant que la procédure soit appliquée pour que ces gens soient admis à réintégrer leur poste.
Alors, on parle de politique, de politisation, Maître Kiatsingé. Y aurait-il des craintes, par exemple, que l'arrivée de ces, entre guillemets, anciens députés qui reviennent à l'Assemblée provinciale, y a-t-il crainte qu'ils ne puissent changer la donne politique ou l'équilibre ou les tendances au niveau de l'Assemblée provinciale?
Non, parce qu'en fait, lorsque un député est placé dans un cas d'incompatibilité, il est remplacé par son suppléant, son premier suppléant en l'occurrence. Et le premier suppléant, il ne peut être que du même parti que lui. Et donc sur le plan politique, il n'y a pas d'équilibre qui soit rompu.
Mais on sait tout ce qui se passe, des gens qui changent de tendance, le suppléant qui peut avoir pris une autre connotation politique, alors que le titulaire revient.
C'est ce que je voulais renchérir en disant que c'est aussi une question de poids personnel, parce que vous savez, à part le poids politique qui peut être reconnu à un parti politique par rapport au nombre de députés qu'il possède dans l'institution, il y a aussi l'influence ou le poids politique des personnalités qui animent l'Assemblée provinciale. Donc, il peut se faire que telle ou telle personnalité qui avait cessé de siéger parce que frappée d'incompatibilité, qui, s'il revient, si cette personnalité revient, eh bien, on peut estimer que sa présence, sa réintégration peut bousculer certaines donnes politiques, et naturellement, comprenez qu'il faut des tractations, il faut un certain nombre de garde-fous de la part de ceux qui contrôlent l'Assemblée provinciale avant de les réintégrer. Donc, c'est une institution politique. Le jeu qui se passe là-bas est aussi politique.
Professeur Jean-Pierre Mbweba, vous êtes professeur à l'Université catholique du Congo. J'y arrive. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Merci d'être venu. Professeur, vous avez suivi ce débat. Vous avez suivi Honorable Mokoma et Maître Kiatsingé. Comment vous percevez cette question?
Personnellement, je crois que lorsque quelqu'un a occupé des fonctions qui le rendaient dans l'impossibilité de siéger et que cette qualité disparaît, comme dans ces cas précis, il y a même un arrêt, je crois que ça ne devrait pas être un problème à politiser. Ça devrait se faire quand même de manière correcte pour que ça ne soit pas une question d'humeur des personnes. On comprend que l'Assemblée provinciale, c'est une institution politique, mais tous les acteurs, tous les animateurs de ces institutions-là sont quand même tenus de respecter la loi et de jouer de manière propre, de manière franche. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut souligner de manière claire pour éviter qu'il y ait des individus qui imposent leur volonté contre le gré d'autres acteurs.
Oui, mais l'arrêt de la Cour suprême de justice est exécutoire, professeur Mbweba. Mais de votre point de vue, pourquoi n'est pas exécuté? Est-ce par mauvaise foi, par ignorance ou par volonté délibérée d'écarter d'autres personnes?
Non, mais tout à l'heure, mon collègue ici, il a
Maître Katsing, il a
donné des arguments très valables. Il y a déjà le fait que cette assemblée provinciale a eu beaucoup de temps sans siéger. C'est un élément important et que, comme c'est une question d'activer quelqu'un qui était désactivé pendant un temps, il faut que la plénière siège, que la plénière puisse prendre acte de cela. Je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait logique. Mais maintenant, au niveau du bureau de l'Assemblée provinciale, je pense que c'est important que le bureau puisse trouver le temps de statuer sur les cas.
Alors, professeur, la même question que j'ai posée à Maître Katsingé au niveau des équilibres, au niveau des assemblées provinciales, on sait que l'Équateur et le Bas-Congo sont dites provinces de l'opposition. Est-ce que la réintégration de certaines personnalités ne pourrait pas faire bouger certaines donnes?
Ça, c'est possible, mais ces gens-là ont été élus comme députés provinciaux, qu'on les veuille ou pas. C'est le peuple qui a élu ces gens-là, donc il n'y a pas moyen d'éviter qu'ils viennent siéger parce qu'ils ils ont de l'influence. Ça, c'est la conséquence aussi du fait qu'ils ont un mandat. Et donc, dans ce sens-là, les individus pèsent parce qu'il y a effectivement le mandat, mais il y a surtout l'individu qui a été élu. Surtout si, en ce moment, si ce sont les suppléants, si ce sont les suppléants qui siègent à leur place, souvent les suppléants n'ont pas le même poids que les titulaires. Ça, c'est clair. Donc, un suppléant, on sait facilement le manier, tandis que les titulaires, il a le poids, il a été élu par les électeurs, donc, il estime qu'il a aussi un mot à dire. Et je crois que même les gens qui discutent avec les députés qui ont été élus tiennent compte de cette réalité-là par rapport à discuter avec un suppléant qui n'est généralement pas connu, même des électeurs.
Alors, professeur, il y a l'honorable Jean-Faustin Mokoma qui a parlé de ce traitement qui lui a été infligé à lui et bien sûr à d'autres des membres du collectif des députés qui veulent réintégrer l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Ils ont été molestés. Alors, jusqu'à en arriver à ce point-là, comment vous percevez, vous analysez ça?
Bon, là, ce sont des situations que nous devons déplorer, parce que au niveau des animateurs des institutions politiques de notre pays, je crois que les comportements devraient être des bons citoyens, un témoignage digne qui élève aussi, n'est-ce pas, la fonction des députés. Si au niveau des députés provinciaux, au niveau des députés nationaux, ces personnalités-là doivent faire l'objet d'agressions, des choses pareilles. Je crois que personne ne peut encourager ces comportements. C'est un comportement qui n'est pas acceptable pour les gens d'un certain niveau. Ce sont les autorités du pays, ce sont les autorités provinciales. Alors, il n'est pas normal, n'est-ce pas, que certains individus puissent instrumentaliser parfois leur position pour administrer, n'est-ce pas, des comportements vexatoires ou des comportements humiliants à d'autres. Donc, ce sont des choses à déplorer, mais ça reste aussi à vérifier. Hein. Souvent, les victimes peuvent toujours soupçonner que leur sort a été orchestré par telle ou telle autre personne. Il est possible que les individus qu'on soupçonne, si on leur posait des questions, puissent aussi nier.
Alors, professeur, il y a certains d'autres analystes qui condamnent le silence des autorités nationales qui auraient pu intervenir pour faire respecter la loi.
Bon, là, vous savez, ces autorités-là, elles sont aussi sollicitées dans beaucoup de choses. Au niveau des institutions provinciales, on pense que la province est assez responsable pour qu'au niveau de la province, les autorités provinciales puissent quand même fonctionner ou faire fonctionner leurs institutions avec responsabilité. Le fait que les autorités nationales interviennent au niveau des institutions provinciales, c'est quelque chose qu'on doit toujours considérer comme une exception. La règle étant de voir les institutions provinciales fonctionner comme la Constitution le prévoit.
Sinon, on crierait vite à l'ingérence.
On crierait à l'ingérence et parfois les provinces risquent de trouver en cela, je crois, une façon de diminuer leurs responsabilités.
Merci, professeur. Honorable Mokoma, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga.
Maître Adrien Ilobakwe Ipero à Kananga, au Kasaï occidental. Cette situation prouve le manque de non-respect des textes dans ces pays, car lorsqu'il y a deux fonctions incompatibles, le concerné a 15 jours pour faire son choix. Après ce choix, il ne peut plus revenir à la case du départ. Tous ceux qui veulent réintégrer l'Assemblée provinciale sont dans des illégalités, car aucun texte de loi prévoit un tel revirement de situation.
Honorable Mokoma.
Oui, ben, je crois que tel que je viens de dire, c'est peut-être parce qu'il n'a pas connaissance de l'arrêt de la Cour suprême de justice, et peut-être qu'il n'a pas lu aussi la Constitution, peut-être qu'il a été révisé dans son article 110. Parce que s'il aurait lu la Constitution, tel qu'il a été révisé dans son article 110, et là je fais allusion à la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, il aurait vite compris que nous nous trouvons maintenant dans un cas d'exception, puisqu'il doit aussi savoir qu'il y a un arrêt de la Cour suprême qui a éclairé de la question. Puisque l'arrêt est là, fort de l'éclairage qui vient de tirer de l'interprétation de l'article de la Constitution, donc il ne peut pas dire que le choix dans les 15 jours peut encore se poser dans les cas d'espèce. Donc j'ai saisi aussi l'occasion, tel que m'avait posé la question, pour répondre à Maître Gilbert qui dit que l'Assemblée provinciale de l'Équateur n'a pas siégé pendant longtemps. Oui, c'est vrai, pendant un temps. Mais je vous ai dit au départ ici que ça fait une année que cet arrêt a été rendu et que ça fait une année que cet arrêt souffre de son exécution au niveau de la province de l'Équateur. Pendant que nous nous sommes rendus, je vous ai dit que nous sommes rendus par 4 fois. Les 3 premières fois, je dirais, c'était à l'époque où l'on siégeait au niveau de l'Assemblée provinciale, même si l'Assemblée provinciale est fermée. Même s'il y a sanction, mais les bureaux fonctionnent. Donc il est question, comme a dit le professeur Bobois, que les bureaux trouvent un temps, puisqu'on l'a écrit, de pouvoir répondre. Et même si on doit appliquer les us et coutumes, tel qu'il vient de dire Maître Gilbert, mais je crois que le fait qu'il n'a pas lu l'arrêt, dans son 6e feuillet, à partir du point 4, il comprendrait que l'arrêt dit, parce que l'arrêt était en interprétation des articles de la Constitution, il est très bien dit, il stipule qu'il répond automatiquement, c'est-à-dire lorsque le député provincial accepte une fonction qui est compatible à son mandat de député, et une fois que cette fonction, il met fin à cette fonction, il reprend automatiquement son siège à l'Assemblée provinciale aux dépens de son suppléant qu'il y avait remplacé, et il en sera aussi tant qu'une nouvelle Assemblée n'aura pas été installée, c'est-à-dire même durant cette période de prorogation de la législature. Et je voudrais aussi qu'on fasse attention à la période à laquelle ce problème se pose, puisque nous sommes dans une situation de fait. Puisqu'il y a eu publication des calendriers, il y a eu des élections aussi en 2011. Mais les élections telles qu'elles ont été programmées au niveau de 2011 ne se sont pas passées suivant les calendriers. Donc on s'est limité au niveau de la législature nationale, on n'est pas atteint les niveaux provincial. Ce qui fait que nous sommes dans une situation de fait, il y a des réponses à ces questions, et la bonne réponse a été faite par l'interprétation et par l'arrêt qui a été rendu au niveau de la Cour suprême de justice.
Alors, selon vous, Maître Ketsinghe se posait la question de savoir si cet arrêt avait des effets rétroactifs.
Effectivement. On peut même pas parler ici des effets rétroactifs, puisque si on fait allusion à l'article 229 de la Constitution, il faut voir notre constitution actuelle. C'est la même qui a été, que nous avons adoptée par voie par le référendum en 2005 et promulguée en 2006. Et quand vous allez prendre les exposés des motifs de la loi numéro 11/002, vous allez voir que la date de la promulgation n'a pas changé. Donc, on ne peut pas parler des effets de rétroactivité, puisque la rétroactivité a été déjà installée de par la promulgation même de la Constitution.
Alors, honorable Mokoma, il y a d'autres témoignages qui affirment que, qui vous accusent d'avoir, d'être allé siéger de force à l'Assemblée provinciale, ce qui a provoqué la réaction de la police.
Non, c'est-à-dire il y a un vrai problème, hein, il y a un vrai problème de désintoxication ou de manque de communication. Nous nous sommes arrivés un samedi. Vous savez, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu à siéger avec nos collègues ensemble. L'objectif, c'était d'abord d'aller présenter nos civilités au président de l'Assemblée. Ça, c'était un devoir quand même civique et normal. On s'est présenté à l'Assemblée provinciale, il y a eu des accolades avec nos collègues. Les images parlent, nous avons, je vais vous déposer ici les divinités.
Donc en un mot,
mais en un mot, tout ce qu'on est en train de dire, même la supposition qui a été faite par mes deux interlocuteurs ici, elle est fausse parce que nous, on n'a agressé personne. Ici, on ne se présente même pas. Comme si on était devant la barre, mais on est victime d'un traitement barbare qui est normalement qui devrait être condamné.
Maître Katsinge, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Robert Mohamed de Bukavu aussi. Les réclamations de ces quelques députés provinciaux du Bas-Congo et de l'Équateur de retourner à leurs assemblées provinciales respectives après l'exercice des fonctions incompatibles.
Voilà, nous allons prendre cette réaction. Je crois que c'est Matumaini Franklin qui nous écrit, qui nous appelle de Bukavu.
Patrick Matumaini, je vous appelle depuis la ville de Bukavu dans la province du Kivu. Je pense que la question est avant tout juridique et donc il faut se demander si la révision avait un effet rétroactif. Sinon, toutes les assemblées de province seront en ébullition. Car si la révision concernant une baie évoque ses élus du texte de rétroagir, il est normal qu'il regagne le Parlement. Mais si tel n'est pas le cas, il faut éviter de déstabiliser ces assemblées, surtout celles de l'Équateur, après tout ce que cette institution a connu. Mais la grande difficulté en est qu'au lieu d'être avant tout juridique, la question est fortement politique. Il est temps d'appliquer la devise du pays qui est justice et travail, c'est-à-dire la justice doit favoriser la paix dans ces institutions pour leur permettre de travailler en toute quiétude.
Maître Katsinge.
Oui, je vous remercie beaucoup. J'ai suivi les interventions des uns et des autres. Il y en a même qui m'ont conforté dans ma position, c'est qu'en fait, nous sommes ici devant une situation assez complexe, où il se mélange des données politiques et des données juridiques, et que donc, à ce moment-là, il faut être très nuancé dans son analyse, étant donné que d'abord, la question fondamentale qui se pose, je n'ai pas lu l'arrêt, je sais que l'arrêt a été prononcé sur base d'une requête qui voulait, n'est-ce pas, obtenir l'avis de la Cour, l'autorisation de la Cour de proroger, étant donné que les assemblées provinciales sont déjà hors mandat, le mandat était de 5 ans, et on se retrouve devant une situation où le mandat expiré, il fallait qu'il y ait une question, une décision de principe de la Cour constitutionnelle, évidemment, dont les attributions sont exercées par la Cour suprême de justice actuellement. Eh bien, la Cour s'est prononcée, comme on le fait toujours dans ce genre de situation, sur la question de dire que les assemblées provinciales continuent à exercer leurs attributions jusqu'à l'installation de nouvelles assemblées. On l'a déjà fait, on l'a fait aussi pour, je crois, la commission électorale, le mandat des institutions passées, le Sénat notamment. Et donc, je crois que ce n'est pas une nouveauté. Maintenant, la question reste entière de savoir est-ce que cet arrêt fait rétroagir, parce que la loi qui a été promulguée en janvier 2013, la loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution, eh bien, cette loi-là dispose à son article 10, elle modifie l'article 10, qui dit que lorsqu'un député...
110.
Oui, c'est l'article 110 de la Constitution, qui dit que lorsqu'un député exerce un mandat incompatible, il est nommé plutôt à des fonctions politiques incompatibles avec son mandat, eh bien, dès que ses fonctions cessent, il peut réintégrer. Alors, le débat reste entier. Savoir, est-ce que ceux qui avaient déjà, à l'époque, été nommés gouverneurs, ou je ne sais pas, élus gouverneurs, ou nommés déjà des fonctions, en fait, incompatibles, avant la promulgation de cette loi, et je rappelle ici que Même cette loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution a été promulguée, effectivement. Aucune loi ne peut échapper à cette règle, et donc elle a été promulguée. Mais est-ce qu'elle rétroagit? Voilà la réflexion que tout juriste, tous les juristes sont en train de mener. Et lorsqu'on applique cette réflexion à ce cas d'espèce, je vous dis que le débat reste vraiment ouvert. Mais il est vrai que la situation générale, qui est une situation de fait, que nous traversons aujourd'hui avec les institutions comme le Sénat, parce que dans le fonctionnement des institutions, il y a toujours deux questions. Il y a la question juridique et la question de légitimité. Et ici, le peuple qui a donné mandat pour 5 ans ne se retrouve plus à travers les députés provinciaux qui ont été élus. Cela signifie que, en tout cas, la légitimité sociologique est déjà perdue. Elle est déjà perdue. Ça crée en fait un malaise. Et c'est ce malaise-là qui a une répercussion sur le fonctionnement de ces institutions-là. Tout ce qu'on observe là-bas comme bouillonnement, des bagarres, c'est une lassitude. La machine est déjà rouillée. Alors, il faut vraiment que nous puissions prier notre beau Dieu que ces institutions soient renouvelées le plus rapidement possible à partir des élections pour lesquelles nous attendons le calendrier.
Professeur Mboibois, il y a cette réaction qui nous vient également de Bukavu Sud qui vous pose.
Robert Wame de Bukavu aussi. Les réclamations de ces quelques députés provinciaux du Bas-Congo et de l'Équateur de retourner à leurs assemblées provinciales respectives après l'exercice des fonctions incompatibles à leur mandat politique sont fondées. À moins qu'on n'ait pas tout simplement la volonté politique de mettre en exécution ou de respecter la Constitution, je pense qu'il n'y a pas à réfléchir outre mesure pour leur reconnaître ces droits.
Professeur Mboibois. Bon, personnellement, je crois que c'est le bon sens. Pourquoi on est arrivé à réviser cette disposition-là? C'est parce qu'il y a des pays où les gens qui ont été élus, lorsqu'ils occupent certaines fonctions, peuvent retourner. Mais dans le cas de notre Constitution, nous avions pris l'option de rendre cela impossible. Pourquoi on a rendu impossible? Simplement par rapport à la mentalité qu'il y a dans le pays. Pour avoir été l'un des experts à la rédaction de cette constitution. Donc je sais dans quel contexte on a situé cette disposition. C'était la question de mettre fin au vagabondage politique, comme on disait, les gens qui changent de camp, qui changent de position du jour au lendemain. Là, on a dit, celui qui quitte délibérément son parti politique perd aussi son mandat. Alors, dans ces cas-là, il y a aussi des gens qui sont au Parlement, qui ne sont pas satisfaits, qui veulent aller au gouvernement, qui dérangent tout le temps pour être nommés au gouvernement. Et ça aussi, ça ne permet pas que les institutions fonctionnent normalement. Alors, nous, Congolais, nous avons pris l'option de rendre cette opération impossible. Mais en réalité, c'est injuste de mettre justement d'empêcher que l'élu puisse continuer à siéger alors que les électeurs lui ont confié un mandat. Il y a un contrat entre l'élu et ses électeurs. C'est un contrat. C'est pour cela, au Parlement, dès que quelqu'un est élu, on constate qu'il est député. Il n'y a pas quelqu'un qui le nomme député. Il est nommé par le fait que les électeurs votent pour lui. Dès que les gens votent pour quelqu'un, il est d'office député. Alors on vient seulement valider les mandats, etc. Mais donc, lorsque cette personne qui a été élue, qui a son contrat avec ses électeurs, peut continuer à siéger, à travailler, etc., je crois que la question de légitimité ne se pose pas, à mon avis.
C'est le cas, par exemple, en France, où on a des députés maires.
Disons, ça dépend des pratiques hein, dans les pays. Vous savez, les cumuls de mandats ou de fonctions au niveau des hommes politiques, ça répond aussi parfois aux besoins. Vous savez, les gens placent beaucoup d'attentes dans les élus. Ils viennent avec des problèmes multiples qu'ils posent aux élus. Les élus ont besoin des ressources financières, parfois pour résoudre des problèmes. Les élus ont souvent besoin d'avoir des contacts, des relations pour résoudre les problèmes de leurs électeurs. Et donc, pour tout cela, parfois les élus pensent qu'en participant à plusieurs instances, ils ont beaucoup de possibilités d'avoir des relations et d'aider leurs élus, et leurs électeurs. Donc, c'est parfois ça qui fait que les gens cherchent
à... Mais ce n'est pas toujours évident aussi.
Parfois, c'est la recherche des ressources financières. Hein. C'est
et, parfois... et d'ailleurs, en France, le problème des cumuls pose aussi un grand problème.
Les cumuls posent toujours un problème. Des disponibilités d'abord, d'efficacité et tout ça. Tout ça, on sait, c'est clair. Mais en même temps, les électeurs, n'est-ce pas, qui ont besoin de la qualité des services, ces mêmes électeurs attendent aussi beaucoup de choses de leurs élus. Ce qui fait que les élus, souvent, ils doivent se casser à mille morceaux. Regardez chez nous ici, les députés, on attend qu'ils viennent résoudre des problèmes des ponts, ils viennent résoudre des problèmes. Et tout ça, est-ce qu'ils ont les moyens pour le faire?
Professeur, au Nord Kivu, il y aurait des cas de deux députés, je crois, qui avaient intégré le M23 et qui veulent revenir à l'Assemblée provinciale au nom de l'amnistie. Est-ce que c'est possible?
Je crois que ça, c'est une question de sécurité. Je pense que pour le pays, et même aussi les électeurs de ces gens-là qui ont siégé du mauvais côté par rapport, on dirait, au devoir de responsabilité, par rapport au devoir d'homme d'État, parce que quand vous êtes élu député, je crois quand même que vous avez un certain nombre de devoirs vis-à-vis de vos électeurs. Et si ces gens qui ont été du côté de M23 veulent revenir au Parlement, à mon avis, c'est une question qui demande que les gens apprécient. Hein. Donc, c'est, à mon avis, ce n'est pas automatique, parce que là, c'est aussi une question de trahison, non? Je crois qu'il y a la question des trahisons. C'est un peu autre chose qu'il faut examiner. Maintenant, il y a l'amnistie, etc. Bon. Les juristes peuvent aussi débattre. Hein?
Honorable Mokoma, il nous reste moins de 4 minutes. Voilà, Maître Katsinge, vous aurez la parole. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Honorable Mokoma, il nous reste moins de 4 minutes. Pour vous, quelle est la voie de sortie? Cette situation crée déjà une crise au niveau de l'Assemblée provinciale.
Mais la voie de sortie, c'est quoi? C'est l'exécution de l'arrêt. Parce qu'ici, il faut que nous mettons d'accord sur une chose. Il y a déjà des dispositions de la Constitution. Hein, telles qui sont claires, et ces dispositions, il y a un honorable qui a introduit son recours pour qu'on puisse éclairer la situation. Et l'arrêt, il vient, il éclaire la situation. Même le problème des changements de parti, le problème de rétroactivité, ça n'a pas de sens ici. Puisque il faut se dire que ceci a été examiné, et il faut se dire aussi que nous sommes dans une situation de fait. La voie de sortie, c'est l'exécution de l'arrêt. Sinon, nous allons tous nous mettre dans une position d'inconstitutionnalité, puisqu'il faut aussi que nous fassions attention à certaines dispositions de la Constitution, que ce soit l'article 151 de la Constitution et l'article 168 de la Constitution. Ce qui se passe à l'Équateur aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins qu'un comportement de rébellion. Parce que si l'Équateur doit vous donner un mauvais exemple dans ce sens-là, alors l'Équateur, il faut qu'on le dise clairement si elle fait partie de la République démocratique du Congo ou pas. Le président n'a qu'à respecter l'arrêt et l'égalité pour qu'il y ait la paix. Merci. Au niveau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur.
Maître Katsinge, par rapport au Nord Kivu...
Je voulais réagir par rapport à la question de l'amnistie. Je parle sur le plan des principes. Pour les juristes, pour le droit... L'amnistie, on l'appelle la loi de l'oubli. Donc, lorsque quelqu'un est déjà amnistié, on suppose qu'il n'a jamais rien fait de tout ce qu'on lui reprochait. Et donc, comme c'est la loi de l'oubli, s'agissant des anciens délinquants, anciens rebelles, je ne parle pas en tenant compte de quelqu'un, je parle seulement sur le plan de droit. Donc, on oublie ceux qui étaient en prison. On les libère. On ne peut même pas renseigner dans le casier judiciaire que quelqu'un avait été ceci, avait fait ça. Et donc, c'est la loi de l'oubli, on efface complètement. Et donc, la question de la réintégration d'un député qui aurait trempé dans telle ou telle situation amnistiée ne se pose pas. Il faut réintégrer, mais moyennant la procédure, il faut, évidemment, à l'Assemblée, il y a une procédure pour cela, plénière, commission, PAJ, etc.
Alors, la voie de sortie par rapport à l'Équateur,
c'est qu'en fait, il faut que l'arrêt soit exécuté s'il est clair. Moi, je n'ai pas lu, j'ai vu. Est-ce que l'arrêt dit que même...
Ce... L'arrêt est clair.
C'est moi qui l'ai pas. Est-ce que l'arrêt... J'ai lu rapidement le dispositif. Est-ce que l'arrêt parle de ceux qui avaient le mandat avant la promulgation de la loi pour ta révision? Est-ce que la loi parle de la situation d'après la promulgation? Et donc, même en matière judiciaire, on a toujours interprété...
S'il vous plaît.
On a toujours interprété le dispositif des arrêts. Il y a des recours en interprétation.
Merci.
Si ce n'est pas clair. Voilà.
Professeur Mboibo, conclusion.
Mais personnellement, je pense qu'il revient au bureau de l'Assemblée provinciale concernée de pouvoir apprécier, ou au moins de pouvoir gérer cette situation-là pour éviter que ça soit comme une sorte de rébellion par rapport à l'arrêt de la Cour suprême. Donc c'est important que le bureau de cette Assemblée puisse gérer la situation.
Merci. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. C'est terminé pour ce soir. Mise en onde de Jean-Claude Nsiala, Kéline Kouté, Béry Franklin Louchaka, sous la supervision de Julien Nyamouigny, Alain Irung, j'ai les coordonnées, je vous les présente. Merci et bon suite au programme sur Radio Capi.